La vie d'escadrille, elle est très très variable selon l'atmosphère, je parle du temps. Par beau temps, les missions succédaient aux missions, tandis que quelquefois, notamment en hiver, et en hiver 1916 où il a fait extrêmement froid, et je me rappelle qu'avec Maurice Boyau, une fois sur Nieuport, avec le moteur rotatif devant, nous avons eu quelque chose comme moins 40. Il a eu le nez gelé, et moi un peu les mains et les pieds. Mais arrivé en escadrille, après l'atterrissage, je dois reconnaître que le bar était assez fréquenté. Oui. Et on y jouait au poker vaste et tourné de Porto ou autre chose. Il est certain qu'à ce point de vue-là, notre sort était infiniment préférable à celui de nos camarades des tranchées. Et où nous avons toujours eu d'ailleurs un accueil, lorsqu'il nous est arrivé, de nous poser tant bien que mal, et plutôt mal que bien, tout près des tranchées françaises, d'être tout à fait bien reçu par les fantassins que nous respections également.
Et est-ce que vous pourriez nous parler de l'esprit qu'il y avait entre vous? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la littérature, justement, sur l'aviation.
Mais il n'y a pas de doute, c'était un esprit de camaraderie totale, sans nuance, de confiance réciproque. Il le fallait d'autant plus que dans les combats, nous n'étions pas tout seuls, il fallait s'aider les uns les autres. Donc, une grosse amitié.
Et à la base, c'était une nécessité de combat, presque.
Dans le combat, oui. Et de plus en plus, à mesure que la guerre s'éternisait, il fallait voler en groupe. Par conséquent, il fallait former des équipes bien soudées et surtout ayant confiance, une confiance mutuelle sans faille.
Et quels étaient les rapports hiérarchiques que vous pouviez avoir? Je veux dire, est-ce que entre vous, il y avait peut-être un esprit de camaraderie, mais par rapport à la hiérarchie?